Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 16.
Bien, on est déjà de retour. On a la chance de recevoir Nathan Giroux, a.k.a. Pure Pasteur, et Xavier Charles Fecteau au 16 ce soir. Ils viennent nous parler de leur nouvel album, Le Voyage d'Héliodore, sorti récemment. Bonjour, vous allez bien?
Salut, ça va bien toi?
Bien sûr.
Hello.
Donc,
vous
avec...
entendez bien?
Ben oui, bien
oui,
sûr.
Oui, on entend bien.
Donc, je me demandais si vous pourriez nous parler là, du nouvel album, Le Voyage d'Héliodore, entre autres. Ce serait quoi l'inspiration derrière cet album-là?
Attends, je lance. Oui, ben, à la base, on a eu de la difficulté à définir le style. On est un peu en quête identitaire. Ça a des racines dans la musique néoclassique. En même temps, c'est un peu ambient. En même temps, c'est très cinématique. Ça s'inspire de beaucoup de musique de films comme Johan Johansson, Hans Zimmer. Fait que je dirais que c'est un mix de tout ça.
Mm-hmm. Puis vous avez un son bien établi qui allie classique, numérique. Comment avez-vous fait pour développer cette atmosphère-là cinématographique qu'on pourrait dire rétro-futuriste?
En fait, c'est vraiment parti de l'idée de garder nos instruments propres, Nathan étant le piano et moi étant les synthétiseurs modulaires. Donc au départ, on avait des idées un peu plus grandioses, d'allier plus d'instruments. On a décidé de garder au final, de garder ça très personnel, donc de créer un dialogue entre nos deux instruments. Donc en fait, toutes les pièces, c'est vraiment une espèce de dualité, donc le piano, l'acoustique et les synthétiseurs, l'électronique, les machines. Donc, puis il n'y a pas un instrument qui est mis plus à l'avant-plan que l'autre. C'est vraiment un dialogue qui se passe vraiment au même niveau. C'est vraiment ça qui donne les couleurs, je pense, de notre album.
Je pense que le côté rétro-futuriste est comme directement relié avec les synthés modulaires de Xavier. Ça crée automatiquement un son un peu vintage, un peu chaotique, qui n'est pas comme les sons les synthés électroniques.
Et au final, dans le style, il y a des influences qui sont très, très modernes et en même temps très anciennes. Donc, si on parle d'anciens, il y a une pièce qui est inspirée des chants grégoriens. Il y en a un autre qui est basé sur l'instrument, le dodo, qui est un vieil instrument harmonien. Donc, ça va chercher des racines aussi très anciennes qu'on mélange avec le moderne, tout le côté rétro-futuriste.
Puis vous avez parlé justement là, de votre collaboration ensemble pour créer l'album. Moi, j'aimerais mieux savoir c'était quoi un petit peu le processus créatif derrière cette collaboration-là. C'est quoi vos défis que vous avez rencontrés en chemin?
Oui, ben, on a commencé à travailler là-dessus, je te dirais, à l'été 2022 à peu près. Okay. Au début, ça a été plutôt lent. Ça fait longtemps qu'on veut faire une collaboration ensemble, mais on n'arrivait pas à vraiment s'organiser pour le faire. Puis finalement, ça a été beaucoup d'échanges de fichiers sur Internet. En fait, on a beaucoup juste vendu des idées. Je rajoutais une couche sur ce que Xav a fait. Puis après ça, lui, il venait comme découper ce que j'ai fait en d'autres choses. Puis de fil en aiguille, ça a mené à un album. Ouais, je peux dire que ça a été une collaboration très virtuelle. Au final, même si on habite pas très loin. Mais il y a des milliers d'heures de messages vocaux derrière ce projet-là. Donc, il y a beaucoup de messages vocaux et beaucoup d'espace sur Google Drive. C'était un ping-pong d'échanges d'idées virtuels. Mais au final, ça a super bien fonctionné pour nous autres.
Super.
Puis justement, vous avez parlé un petit peu plus tôt là, des différents instruments que vous avez utilisés pour perfectionner votre son. Là, quand on parle un petit peu de néoclassique et de musique électronique. Puis on observe beaucoup les synthétiseurs là, qui ont été mis un petit peu à travers tout le reste. Quel rôle ça joue pour créer l'univers sonore de votre nouvel album, Le Voyage d'Héliodore?
Comme j'ai dit tantôt, c'est l'instrument dans lequel moi je me spécialise. Donc, on voulait garder ça très personnel et garder nos instruments respectifs. Après, moi, ça a été de trouver un peu ça allait être quoi le rôle des synthétiseurs dans cet album-là. Puis, une des premières choses que je voulais éviter, c'était le fameux son typé des années 80, parce qu'il y en a eu tellement, mais tellement les dernières années depuis Stranger Things. Mm-hmm. Et c'est un truc qui est quand même dur. C'est facile de tomber dans ces sonorités-là. Puis on voulait absolument pas faire la musique typé années 80. Donc, c'était d'aller chercher des couleurs soit plus modernes, donc vraiment des couleurs de famille couleurs modernes d'aujourd'hui, ou aller chercher des sons vraiment plus rétro. On parle du début des synthétiseurs avec des sonorités plus des années 60, 70, avec des plus vieilles influences, là, donc les premiers Moog, aussi je pense à Plantasia, qui est devenu populaire aussi, qui est un album qui sort dans les années 70. Mm-hmm. Donc d'aller chercher des couleurs très anciennes et très modernes en évitant le trou des années 80. Et c'était aussi d'être complémentaire au piano sans recréer ce que le piano faisait. Donc le but, c'était pas parce que le piano est un instrument de notes et de rythme. Mm-hmm. Et le but, c'était d'aller chercher une complémentarité dans les éléments que le synthétiseur peut aller chercher, que le piano ne peut pas aller chercher. Donc, aller au-delà de l'imitation, mais vraiment créer un univers plus surréel autour du piano qu'on connaît déjà bien.
Donc, c'est en s'inspirant directement de ce que l'autre faisait ou vous aviez des inspirations externes là, qui venaient de ça pour bâtir vos musiques au synthétiseur?
Bien, c'est ça. La difficulté, je pense, c'est qu'on voulait éviter de retomber dans des trucs qui ont déjà été faits en musique néoclassique. Mm-hmm. On entend beaucoup, par exemple, Nils Frahm ou Jean-Michel Blais ou ces mm-hmm. artistes-là. Ils vont vraiment mettre le piano à l'avant-plan, puis c'est cool. Puis mais le synthé, dans ces occasions-là, souvent, il va vraiment juste comme jouer un rôle de filler, puis ça va donner une petite vibe en dessous un peu contemporaine. Mais nous, on voulait vraiment que les deux instruments soient sur un pied d'égalité. Fait que ça a amené que le piano... Souvent, il a joué un rôle plus ambiant. Il y a des pièces qui fait juste vraiment des accords ou des petits arpèges en arrière, puis prend pas trop de place.
Puis au final, tu peux acheter quelque chose. Nathan a aussi ses propres influences, et moi, j'ai les miennes. Des influences mm-hmm. sont très, très, très différentes. Donc, des influences des fois qui sont très pianistiques et de mon côté, très, très, très électroniques. Mm. Fait qu'on a vraiment fait, on a fait clasher un peu ces deux univers-là dans cet album-là. Au final, je pense qu'on a trouvé un équilibre, une harmonie entre nos influences respectives.
Mm-hmm. Puis Le Voyage d'Héliodore, c'est un titre vraiment intéressant. Vous diriez que c'est quoi la signification là, derrière ce titre-là?
On a voulu faire un album qui était narratif, mais qui était narratif d'une façon abstraite. Donc, on voulait pas donner aux gens une histoire toute faite. Puis d'ailleurs, dans notre vinyle, il y a un booklet avec des illustrations créées par Maud Le Guenou, qui est notre graphiste. Puis elle a fait vraiment comme une série d'illustrations qui accompagnent Le Voyage d'Héliodore. Mais c'est pas une bande dessinée. Il n'y a pas un personnage principal. C'est un peu plus abstrait. Donc on voulait laisser aux gens la liberté de tisser leur propre récit à travers ça. Mais Le Voyage d'Héliodore, je pourrais pas vraiment t'expliquer d'où ça vient, ce nom-là. Ça sonnait bien à mes oreilles. Héliodore, c'est un nom grec. Ça rejoint peut-être la musique grecque. On sait pas trop c'était quoi exactement, mais qui comme c'est une connexion avec l'Antiquité. C'est mystérieux.
Ben oui.
Fait créer un peu le sentiment d'une épopée. Donc, quelque chose de très, très gros, très fantastique, et qu'avec les titres, avec le visuel, on croit qu'on a donné assez aux gens pour qu'ils puissent un peu construire cette épopée-là, qui n'est pas écrite en fait, qui n'existe pas, mais qui donne assez d'indices pour pouvoir créer justement cette espèce de récit-là fantastique de science-fiction.
Voilà.
Puis si on parle encore là, de votre album là, qui est sorti le 22 mai dernier, désolé, comment est-ce que vous aviez envisagé les attentes de vos auditeurs? Est-ce que vous en aviez des attentes, justement?
C'est une bonne question, ça.
Bonne question, hein?
Ah, je peux y aller? Vas-y. si je parle de mon parcours, je suis passé par la musique électroacoustique, donc une musique qui est assez... expérimental en général, qu'on trouve beaucoup dans le milieu académique, mais c'est plus dur d'aller rejoindre le grand public. Je pense que un début avec cet album-là, c'était de trouver un équilibre entre un album qui allait être accessible, toujours pour les gens curieux, je veux dire, ça reste que c'est pas de la musique pop, il n'y a pas de paroles, mais c'est mélodique. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'accroche pour le grand public. Mais en même temps, on voulait quand même qu'il reste... On voulait garder du mordant, on voulait garder un peu de la viande qui vient de la musique expérimentale, mais sans que ça prenne toute la place dans le discours. Donc, on vraiment essayé de trouver, de jongler entre le côté accessible, mais en même temps, avec la viande. Donc, au final, on espère vraiment pouvoir rejoindre un plus grand public. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que la musique instrumentale, en ce moment, est vraiment en plein essor. Si on pense à des artistes comme Flore Laurentienne, qui est justement une musique... je garde mon terme, mais qui a beaucoup de viande. Donc, c'est de la musique qui est très recherchée, qui a beaucoup de matière. Mais ça rejoint le public en ce moment. C'est vraiment beau à voir. Puis, on croit que notre album s'inscrit un peu dans ce mouvement-là. Donc, une musique qui est recherchée, qui est écrite, mais qui reste tout de même accessible. Je ne sais pas si vous l'achetez. Non? Donc, voilà.
Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous, les gars. Est-ce que, en finissant, est-ce que vous avez des projets futurs en tant que Pur Pasteur, Xavier Charles Fecteau?
Ben, premièrement, ça va être de donner ce show-là le plus qu'on peut à Montréal et dans les environs. On pense peut-être faire des spectacles à l'extérieur de Montréal bientôt, peut-être Québec, Bas-Saint-Laurent, des places comme ça.
Et de rejoindre les grands festivals aussi pour l'année prochaine.
C'est ça. Et d'appliquer dans les festivals l'année prochaine. Puis sinon, on est déjà en train de travailler sur la nouvelle musique. On pense peut-être aller dans une direction un petit peu plus énergique, vu la bonne réception qu'on a eue pour notre pièce de Tantier. Donc, on a déjà collaboré avec un batteur sur Artax Circle. On a bien aimé ça. Fait que ça se peut qu'on intègre plus de drums puis d'éléments rythmiques à l'avenir. Donc, c'est ça qui s'en vient.
Ben oui. Ben merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Allez, merci. Ciao.